d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 de la bande FM dans l'émission mode d'emploi exceptionnel ce soir puisque c'est une réunion de la C19-20 et de l'équipe de secret de fabrication. C'est un mode d'emploi très particulier à double titre, puisque nous respectons le confinement et que c'est une conférence téléphonique enregistrée que vous écoutez. Bienvenue, chers auditeurs, depuis le quatrième jour du confinement total et le sixième du confinement partiel. Alors, juste un petit point sur l'épidémie que vous avez sûrement écouté plus ou moins ailleurs, hein, notamment sur France Info. Aujourd'hui, nous sommes à 108 morts en plus en France, donc qui monte la barre à 372 morts au total. On est sur un taux de morbidité de 2,2%, qui est légèrement au-dessus de la grippe, mais de 5% de cas graves. Donc, pour vous donner une idée de ce chiffre, ça fait à peu près 20 000, on a passé la barre des 20 000 contaminations et des 10 000 cas graves qui sont en réanimation. Juste toujours pour ramener à des proportions, hein, par rapport au nombre de décès habituels en France, on compte à peu près un peu plus de 600 000 décès par an en France, donc ce qui fait à peu près 1670 décès par jour, ce qui est beaucoup. Et donc les décès du coronavirus, par exemple, c'est 6%, une augmentation de 6% par jour, sachant qu'en réalité, le nombre de décès augmente de façon exponentielle, donc c'est quand même une mortalité qui est très importante. Évidemment, tous les pays ne sont pas à la même situation, sans qu'on puisse expliquer réellement pourquoi. Par exemple, l'Italie est à 7% de taux de morbidité, ce qui est tout à fait énorme. Alors, ça peut être lié évidemment aux services de santé, mais ça peut être aussi lié à l'âge en fait de la population, qui est fortement beaucoup plus impactée. Voilà, ça c'était pour les informations, les dernières informations. Alors, juste une remarque sur le confinement. En fait, le confinement, nous sommes au quatrième jour du confinement total. Il faut savoir, que peut-être les auditeurs savent, hein, qu'il faut 15 jours d'incubation maximum, 14 jours d'incubation maximum au coronavirus. Et donc, à partir du jour du confinement, il y a 14 jours de retard. Et donc, pour voir les effets du confinement s'appliquer, il faudra attendre 14 jours. Et il faut encore 14 jours après la maladie pour que les gens ne soient plus contagieux. Ce qui fait qu'effectivement, le gouvernement a annoncé récemment que le confinement durerait peut-être 6 semaines et les cas de coronavirus, de gens qui sont atteints de la maladie, est en train de doubler jour après jour. Donc c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Donc, comme le confirment certains épidémiologiques, en réalité, le confinement ne conduit pas forcément à simplement éradiquer le virus du tout, mais simplement à ralentir sa propagation et donc à l'étaler dans le temps. Donc en fait, c'est une crise sanitaire qui pourrait durer bien 4-5 mois, sachant qu'en fait, le confinement est mis en place pour que les urgences puissent gérer la situation. Alors pourquoi 4-5 mois ? C'est qu'il suffit que dans un mois, on lève le confinement pour que le virus puisse tout à fait repartir en fait, dans sa contamination. Et donc Donald Trump a fini par affirmer les États-Unis seraient sortis du coronavirus en juillet-août, qui est peut-être optimiste. Et donc c'est la première fois dans cette émission qu'on cite Donald Trump comme référence, comme quoi on vit vraiment une situation exceptionnelle. Alors voilà, ça c'était le point sur l'épidémie. Et donc, je ne vous ai pas présenté les participants. Donc, bonsoir, je suis avec Christophe de Mode d'emploi. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Je suis avec Gilles.
Salut.
Voilà, tout confiné chez lui. Je suis avec Bob. Bonsoir Bob.
Et je suis... confiné chez lui aussi, et puis en arrêt maladie, quoi.
Eh oui, porte-toi bien, hein, surtout.
Pas de problème.
N'hésite pas à aller aux urgences si tu te sens pas bien. Et avec Claude, bien sûr, qui assure la conférence téléphonique.
Oui, bonsoir.
Alors, bonsoir à tous. Alors, bienvenue hein, pour ce genre d'émission très particulière. C'est vrai que FPP était un petit peu... on a fermé la prod, on a fermé les studios, et donc c'est toujours sympa de pouvoir se retrouver pour faire son émission habituelle. Je vais faire un petit tour de table pour voir comment ça se passe, le confinement.
Alors, je voulais juste rajouter un petit point à ton tour d'horizon là, sur le coronavirus. Faut savoir que, par exemple, Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, dans une conférence de presse virtuelle le 18 mars 2020, demande à l'Afrique de se réveiller parce qu'elle doit se préparer au pire. Il faut savoir que la plupart des pays africains manquent de médicaments et d'équipements de protection, qu'ils ont un déficit criant d'appareils tels que les concentrateurs d'oxygène et les appareils de respiration mécanique qui sont nécessaires pour traiter les cas sévères, d'accord ? Donc ça, c'est déjà un point pour le problème de l'Afrique qui va bien sûr exploser, j'imagine, ça va être exponentiel dans les mois qui viennent, j'imagine bien, puisque c'est mondial pour le coup. Donc la plupart des structures hospitalières africaines n'ont pas la capacité d'accueil parce qu'elles sont très très limitées au niveau des services de soins intensifs. Par exemple, le cas du système hospitalier au Zimbabwe illustre bien les propos du directeur général de l'OMS hein, dans ces hôpitaux au Zimbabwe qui a décrété l'état de désastre naturel le 16 mars. Le personnel hospitalier avoue son impuissance face à une catastrophe annoncée. Nous ne sommes pas prêts, nous manquons de tout, personnel, médicaments et équipements. Voilà. Ils n'ont, par exemple, il y a un établissement, ils n'ont que 300 masques et comptent à peine 3 lits, seulement 3 lits en réanimation. Donc, faut savoir que la population africaine est extrêmement importante. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que va faire les autres pays du monde par rapport à ce qui va se passer en Afrique ? Ça, c'est une question qu'on peut éventuellement se poser. Voilà. Donc,
c'était oui, absolument. Oui.
Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus ?
Bien sûr.
Ouais, alors, heureusement, bon, je conteste absolument pas du tout ce que tu as dit, hein, Gilles, mais heureusement, l'Afrique a pris du retard dans le développement de la maladie. Ouais. C'est-à-dire que, visiblement, ils ont appris les leçons de Ebola. Et pour une fois, leur bureaucratie locale a été un peu efficace. C'est-à-dire que quand les travailleurs chinois sont revenus de Chine après le Nouvel An, il y a eu beaucoup de confinement et de quarantaine qui ont été mises en place. Ils ont un peu limité la propagation. Alors évidemment, comme c'est exponentiel, le jour où ça décolle, ils sont graves dans la merde. Mais il faut espérer que le délai qu'ils ont gagné leur permettra d'anticiper, de prendre quelques mesures.
Oui,
c'est tout ce qu'on peut dire.
Oui. Ce qui indique bien qu'en fait, les systèmes de santé sont importants dans les pays, hein, et plus ils sont développés, et mieux on se porte en cas de pandémie grave. Alors, du tout, on va revenir un peu là-dessus, hein, sur les histoires des problèmes de lit. Je voulais juste effectivement faire un tour de table par rapport au confinement, est-ce que ça se passe bien, est-ce que des remarques par rapport à ça, parce que c'est vrai que on est parti pour 6 semaines, c'est le 4e jour. Et faut gérer surtout quand on a des enfants.
Oui, c'est exact. Oui, c'est pas facile.
Voilà. Oui, c'est pas surtout à Paris. Là, je veux dire, où les appartements petits, ça ne doit pas.
Moi, j'ai le problème inverse. Je peux pas les voir.
Le droit de visite. D'accord, le droit de visite n'a pas été autorisé, d'accord.
Oui, c'est pas ça, c'est que dans la mesure où je suis probablement infecté, je vais pas m'amuser à me déplacer avec autant pour aller les voir, quoi.
Hein. Oui, c'est sûr, et dans le même ordre d'idée, les Parisiens n'ont pas intérêt à aller en province, pour certains, aller voir leurs parents en province, qui sont mauvais trajets, parce qu'il y a un sacré risque de contamination et de diffusion.
Je voulais intervenir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Parisiens notamment qui sont partis parce qu'ils vont des petites pioles hein, sur Paris, hein, des chambres de bonne, des choses comme ça. Et en fait, ça a été une usine à propagation du virus, tout simplement, dans des provinces qui seront sûrement nettement moins équipées en termes de respirateurs et de personnel soignant, puisqu'il y a quand même des déserts médicaux. Alors, par rapport à ta question de comment on vit le confinement, moi, en tant que fonctionnaire d'une administration dont je tairai le nom, ça a été très étrange parce que, en fait, on nous a dit qu'on était confinés d'office. Notre structure, en fait, est fermée. On est ce qu'on appelle en absence, on a SA, c'est en absence
justifié pour raison spéciale.
Spécifique
au une autorisation spéciale d'absence, en fait, la SAR, dans le Code du travail, dans les articles de loi relatifs au statut de fonctionnaire. On est payé sur notre régime indemnitaire, hein, classique, hein, on ne perd pas de salaire normalement, mais on a une autorisation spéciale d'absence parce que, en fait, en termes de droit, on est un peu privilégié, ça c'est vrai, hein, parce que on considère qu'on a un service fait, que ça compte aussi bien pour la retraite que notre salaire. Mmh.
C'est déjà mais,
voilà. Ce qui est, par contre, oui. Mais par contre, ce qui est, moi, dans mon cas, si tu veux, c'est normal qu'on est fermé parce que nous, on accueille du public, donc on aurait été un nid à Covid-19.
Ben,
un nid d'infection. Donc, c'est totalement. En plus, on accueille des publics fragiles, donc ça aurait été un nid d'affection pour tout Paris.
Enfin, cela dit, toutes les administrations sont pratiquement fermées, hein, je veux dire.
Absolument, absolument. Tout à fait. Et c'est là où on arrive à un problème de fond, c'est que ensuite, comment ça va mettre à mal les finances publiques de toutes les collectivités, il ne faut pas rêver, quoi.
Oui,
c'est-à-dire que il y a une autre situation qui est grave, c'est qu'il y a des collectivités qui ont quand même des déficits, et ça va aggraver leur situation financière. Et ça posera un problème à long terme. Voilà.
Oui, enfin, le travail restera le même. Hein. Je suis désolé d'avoir à dire, même s'il est pas, il y aura plus de travail à la sortie. Mais, alors, juste, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une remarque par rapport à son confinement. On a oublié. Oui, Bob.
Non, mais je veux dire, c'est bon. Effectivement, il y a ceux qui ne peuvent pas voir leurs proches et puis il y a ceux qui les ont avec eux à la maison, en étant peut-être certainement tous malades, hein, pour le coup, parce qu'on ne sait pas trop. Il suffit qu'il y en ait un qui est mal au ventre pour savoir qu'on peut se dire que c'est le truc qui...
Tout à fait.
Et comme on est tout proche les uns des autres, parce qu'on est dans un petit appartement, par exemple, hein, ben, on est tous atteints pour le coup. Hein. Ça pose un problème de... Parce que moi, je suis du télétravail, comme tout le monde, hein. Donc, ça pose un problème de pouvoir travailler avec les bruits autour de soi, tout le monde les uns sur les autres. On s'arrange, on se fait des pages horaires pour éventuellement chacun puisse prendre l'ordinateur, ce genre de choses. Mais c'est une nouvelle organisation qui est assez étrange. Moi, je voudrais juste dire un point sur le coronavirus. Je considère qu'effectivement, le fait de prendre des décisions qui ont été prises par le gouvernement sur le fait de rester chez soi est une très bonne décision. Mais il ne faudrait pas aller jusqu'à l'exagération quand même, parce que bon, là, tout est fermé, on ne peut plus rien faire, il faut même carrément montrer sa carte d'identité, un bout de papier en disant, pour montrer où on va. C'est un petit peu, à mon avis, exagéré, même si effectivement le souci est important et puis que le problème existe. Voilà, donc moi je me disais que peut-être une tentative par le gouvernement d'en profiter pour ne pas parler d'autres choses déjà, hein, des autres sujets qui fâchent. Mais surtout d'être un petit peu autoritaire sur le sujet. Donc, voilà. Donc, ça, par contre, je suis sûr que personne ne partage mon idée, mais ça, c'est ce que je pense. Voilà.
Je suis en opposition frontale avec ce que tu viens de dire.
On t'écoute.
J'y vais, je développe.
Oui.
En fait, moi, je suis content, je pense exactement l'inverse. Je pense que le gouvernement aurait dû réagir beaucoup plus vite, quitte à ensuite déterminer les possibilités de retour en activité et de réouverture de certains services.
Oui. Ouais, c'est une idée, oui, aussi.
Parce que là, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, la méthode a été scandaleuse. Donc, je vais développer juste 2 minutes. Ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, ils ont complètement sous-évalué la maladie et ils ont envoyé des messages extrêmement démobilisants. Ils ont pris les Français à contre-pied. Ils ont envoyé d'abord un certain nombre de messages démobilisants et ensuite, d'un coup, il fallait appliquer un confinement qu'ils n'avaient pas défini. Et en fait, ils ont fait ça pour reporter la faute de leur inaction sur les Français. Il n'y a qu'à voir dans le deuxième discours de Macron, il a clairement dit en début de discours, c'est la faute aux actions des Français si la maladie se propage. Donc il y a un truc qui est scandaleux dans cette affaire-là et qu'il va falloir vraiment sur lequel il va falloir revenir, c'est qu'en fait, ils sont en train de... Et toute cette affaire, d'attestation. Cette affaire d'attestation, c'est scandaleux. En réalité, ils s'en servent. Les flics sont en train de se lâcher dans les quartiers populaires. Ils sont en train de tabasser les gens. Dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servent, les flics, en tout cas les plus sadiques d'entre eux, se servent de ça pour faire régner la terreur dans les quartiers
populaires. Enfin, il n'y a pas de cas, excuse-moi Jérôme, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de cas de rixe ou de baston. Enfin, moi, j'en ai pas entendu eu connaissance. Hein.
Par contre,
la verbalisation, oui.
Cinq vidéos différentes de personnes de couleur se faisant molester, arrêter, piétiner, menotter, etc., par les policiers, pour des questions d'attestation. Alors, voilà. Il dit, il n'y a pas d'éléments, j'ai des éléments. Oui. Un autre truc. Les flics, moi, je me suis fait arrêter par un keuf en allant chez mon médecin traitant. J'avais pas d'attestation, mais j'avais mon texto dans mon téléphone qui avait la convocation dessus. Donc, on a pu s'expliquer, il n'y a pas de problème, il a été zen. Il n'avait pas de masque, il n'avait pas de gants. D'accord ? Il me parlait à un mètre du visage. Moi, j'étais masqué, moi. D'accord ? Il me parlait à un mètre du visage. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas de masque ? Il a dit, ça ne sert à rien.
Il n'était pas très bien informé.
C'est les instructions de leur supérieur. Comme ils n'ont pas assez de masques, ils ne peuvent pas donner des masques à tous les flics. Et donc, ils ont dit aux flics, ça ne sert à rien, enlevez vos masques. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'envoyer les flics au casse-pipe. Ils les mettent en danger. Non seulement ils les mettent en danger, mais la population qui va parler le plus aux autres à un mètre de distance et sans masque aujourd'hui, c'est les flics. Ils en font des vecteurs de propagation.
Ils mettent leur santé en danger.
Voilà.
Parce qu'on peut guérir du Covid-19, mais avoir des séquelles.
Ouais. Alors là, oui, tout à fait, des séquelles pulmonaires notamment. Alors on a compris le propos. Alors juste, donc, on a parlé de la stratégie du Royaume-Uni, alors si on peut en dire quelque chose, et des Pays-Bas, qui ont choisi, alors pour des raisons d'activité économique, pour des raisons assumées d'activité économique, de ne pas faire, dans un premier temps, de ne pas faire de confinement, et donc de laisser un espèce de pic épidémique, laisser leurs urgences déborder, donc on va dire très clairement de mettre déjà en état de saturation leurs services d'urgence, mais en danger leur population, hein, pour le coup, parce que on voit bien que c'est une épidémie qui se diffuse très très vite, dans une optique de provoquer une espèce d'auto-vaccination, en quelque sorte, une fois que tout le monde est contaminé et que tout le monde a développé des anticorps, la population est de mieux en mieux protégée. Alors c'est une stratégie qui pose énormément de questions, parce qu'on voit que dans certaines maladies, il faut, un taux, par exemple, des taux de vaccination de 95% pour qu'il n'y ait pas de reprise de virus dans certaines zones ou dans certaines parties de la population. Et là, on a quand même un virus qui est extrêmement mortel. Est-ce que, Jérôme, toi qui est bilingue, hein, et donc qui parle anglais couramment, tu as des informations sur. Alors, on se demande si c'est pas encore Boris Johnson, un coup de Boris Johnson qui est évidemment un leader peut-être pas tout à fait comme les autres, ou si c'est si l'establishment anglais est un peu tout sur la même longueur d'onde, une stratégie un peu.
Deux choses. D'abord, un, le raisonnement économique est toujours un raisonnement qui est orthogonal à tout raisonnement moral. D'accord. Le calcul coût-bénéfice est un calcul amoral et immoral. Quand on raisonne en coût-bénéfice, on fait l'impasse sur, on considère les morts comme un coût à comparer avec les autres coûts.
Tout à fait.
Effectivement, un pic court mais intense permet à l'économie de redémarrer rapidement avec une courbe en V. Et donc, ça veut dire que celui qui passera l'épidémie le plus vite aura un avantage compétitif sur les autres pays. Il y aura moins de pertes financières. Et ça, c'est le premier argument. Donc, il y a un calcul coût-bénéfice. Bon, il faut savoir aussi que le gouvernement conservateur britannique est habitué de ce genre de calcul. Le conseiller de Londres de Johnson est Dominic Cummings. Dominic Cummings est un néo-nazi. Et la logique derrière Johnson, c'est d'éliminer les faibles. Il n'a pas dit comme ça, mais les faibles sont des gens qui pèsent, qui coûtent plus qu'ils rapportent. Donc, si on les élimine, l'économie redémarrera d'autant plus vite. On est dans cette logique-là. Mais ce que je veux dire, c'est… Non, mais ça, c'est clair. Bon, après, il faut noter deux choses. Un, primo, il n'a pas tenu ce discours très longtemps. Parce qu'en fait, Bah oui, parce qu'en fait, les organismes médicaux britanniques, ils sont pas piqués des verres, c'est quand même des sacrés, mmh. C'est des sacrées structures extrêmement, comment dire, solides scientifiquement. Mmh. Ils lui ont dit, ben voilà, voilà les stats, regardez les stats. Vous êtes prêts à assumer 400 000 morts dans le pays, parce que c'est ça qui va arriver. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, oula, bah, peut-être que en fait, ça va pas le faire. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que avec Macron, on a un Boris Johnson en plus faux cul. Au moins, Boris Johnson a eu la franchise et la brutalité de l'admettre en disant, voilà comment on va faire. Alors, ça n'a pas marché, ça ne va pas marcher, mais il a dit, ma stratégie, c'est ça. Macron a adopté la même stratégie, il veut faire la même chose, on en parlera quand on parlera de Pénicaud. Or, il le dit de manière beaucoup plus faux cul, comme d'habitude, quoi.
Et ça c'est au début, parce que depuis, on est quand même tous confinés, on n'a pas pris la même voie, mais bon, il n'y avait peut-être pas d'autres...
Le confinement, il a des trous partout, son confinement, c'est de la merde. On reviendra dessus quand on parlera de Pénicaud.
Ok, alors oui, bah, on parlera du travail, hein, des gens qui travaillent, parce que c'est un problème. Alors, on va se passer une petite musique parfaitement d'actualité qui s'appelle... Je ne voudrais pas creuser, et c'est une musique de Boris Vian, qui n'est pas la plus connue, hein, comme le rappelait Claude hors antenne. Et donc on s'écoute ça, et on reprend dans quelques minutes.
Ce goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort, je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Alors, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, un mode d'emploi très spécial aujourd'hui puisqu'il réunit les équipes d'AC et de secret de fabrication et qu'il se passe en mode de conférence téléphonique. Donc, nous sommes des envoyés spéciaux de chez nous, comme aurait dit Renaud. Et donc, on était sur... effectivement, le développement de l'épidémie, la stratégie anglaise, française, voilà. Et justement, alors, tout d'un coup, je pose la question un peu à tout le monde, le télétravail devient très, très, très populaire. Alors, on s'était déjà aperçu que le télétravail était populaire en temps de grève, et ça permettait de, bah oui, de faire travailler les gens chez eux, et quand il y a des grèves de transport. Et là, c'est l'arme absolue, hein, pour comprendre, enfin, continuer à faire travailler les gens, même quand ils ne le peuvent pas. Et donc, ce n'est pas une situation qui est sans ambiguïté. D'abord, on pourrait rappeler, hein, que le début du télétravail, en fait, c'était au 18e. Lorsque les tisseuses faisaient leur production chez elles à la maison pour aller le porter aux tisserands. Voilà, et c'était vraiment ce qu'on appelait du travail informel, avec à l'époque pas de partage entre les privés et les professionnels, et c'était surtout un travail qui était lié à la tâche. D'ailleurs, certaines professions ont, pendant longtemps, des professions que je ne citerai pas ici, mais effectivement, ils étaient payés à la tâche en n'ayant aucune reconnaissance de lieu de travail. Et d'ailleurs, ils n'ont toujours pas de reconnaissance de lieu de travail. Voilà, c'est des gens qui travaillent, mais on ne sait pas où. Donc voilà, donc c'est toujours très, très ambigu. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont liées. Le fait d'être un travailleur isolé, le fait d'avoir beaucoup plus de pression, en réalité.
Oui, c'est vrai, Ludo, tu as raison. C'est le fait d'être un peu isolé et puis ne plus avoir ses collègues en face de soi, ça peut être un peu gêné, mais il y a quand même un avantage du télétravail, c'est qu'on peut aussi se permettre de se retrouver soi-même et de passer à des choses qu'on ne faisait plus depuis un certain nombre de temps, de mois, d'années, enfin, je ne sais pas, de semaines. C'est se remettre à écrire, se remettre à lire, à écouter de la musique, apprendre du temps pour soi.
Mais tu ne travailles pas, alors. Tu ne travailles pas.
Quelque part, il ne faut pas tomber. Non, mais le fait d'être chez soi avec une obligation de ne pas sortir, ça permet également de peut-être éventuellement ne pas tomber dans la dépression, surtout pas, mais en tout cas de retrouver peut-être des choses de la vie réelle.
Je ne parle pas de l'obligation.
c'est travailler. Hein,
donc, oui, je ne parle pas de travailler, d'être confiné chez soi, je parle de télétravailler.
Oui, télétravailler, oui, oui.
Voilà, donc c'est-à-dire, là, peut-être que... On est dans une... Mais il y a effectivement certaines personnes qui sont dans l'obligation de continuer à travailler. Pas parce qu'elles sont chez elles, elles vont écouter de la musique.
Ouais, moi, je te parlais de l'isolement, en fait.
Alors, je voudrais intervenir sur ce point pour rappeler quelques petits éléments par rapport à l'administration en général. Comment a été perçu initialement le télétravail en France? En fait, le télétravail, notamment dans les administrations, et ça a souvent été dénoncé par tous les syndicats, c'est une piste d'action pour écarter en douceur les salariés qui sont soit en fin de parcours, soit qui ont des problèmes de santé, soit qui seront dans une logique un peu plus disciplinaire. Ça a toujours été perçu comme ça dans les administrations et un peu vécu comme ça, quoi qu'on en dise. Alors, ce n'est pas marqué dans les textes réglementaires, mais je dirais dans le même fait, dans l'état d'esprit, ça a toujours été comme ça au niveau des ressources humaines. Ce qui fait que, et on le voit comment, parce que moi j'ai des collègues qui sont en télétravail, hein, on voit par le fait que le salarié inconsciemment se met une pression en prenant une quantité de travail très conséquente alors que c'est une absence de temps par rapport à un mois de salaire partiel. Hein. On ne peut pas être en télétravail complet quand on est dans l'administration, sauf raison dérogatoire. Et ce qui fait que non seulement la personne prend une quantité de travail assez conséquente, mais il y a toujours une vérification en amont et en aval. Donc c'est un moyen de pression très discret, très subtil pour être dans la notion de productivité efficiente. Et ça pose un gros problème parce que l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen pour donner des tâches élémentaires, voire basiques par rapport à un profil de poste d'administration et faire un minima. Donc ça c'est toujours le télétravail, de toute façon, du fait de l'intelligence artificielle, ça va être amené à évoluer et à se propager. Mais il y a toujours, je dirais, une ambiguïté par rapport au statut du salarié, non pas réel, mais perçu, quand on utilise ce type de pratique pour la productivité.
Tu veux rajouter quelque chose?
Oui, bien sûr.
Ok. Moi, je vais partir sur l'aspect matériel, parce que c'est un bon complément à ce que tu viens de dire, Christophe, en fait. Le télétravail, ça ne s'improvise pas comme ça, quoi. Les règles du Code du travail sont assez contraignantes et les accords de télétravail qui sont passés sont aussi contraignants. Il faut savoir qu'on ne travaille pas sur son ordinateur personnel. Si en télétravail, normalement, l'employeur doit fournir un équipement adapté, doit fournir la connexion spécifique au télétravail. On ne travaille pas avec sa connexion. On doit avoir un local. On doit avoir un local à part. On ne peut pas travailler dans son salon. Il faut un bureau pour télétravailler. Je veux dire, toutes ces conditions sont rarement remplies en réalité, parce qu'en réalité, il n'est pas question, il n'est pas acceptable en tout cas, que la contrainte ne soit pas prise en charge par l'employeur. L'employeur a le devoir de résoudre les contraintes matérielles du poste de travail. Ce n'est pas au salarié de le faire. Donc, en cas de télétravail, il faut être très clair. En réalité, 90% des gens qui sont en train de faire du télétravail aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas équipés pour à domicile. Ils sont en train de faire du pseudo-télétravail, en réalité, avec une productivité probablement très faible. Mais bon, ça, c'est pas trop notre problème, mais surtout une gêne occasionnée à la maison qui est considérable. Ah oui, oui carrément. Oui. J'en conviens, tout à fait.
Oui, absolument. Et c'est ce qui est un cas normal, en fait. Hein,
bah, c'est un peu...
C'est une crise particulière, mais
c'est un peu mon cas, un petit peu, tu vois. Oui. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. Le fait de ne pas avoir un matériel, bon, il est adapté puisque c'est le matériel de la société, mais c'est vrai que c'est sur mon réseau, c'est dans mon salon, c'est effectivement avec toute ma famille qui me tourne autour aussi, donc qui fait du bruit, enfin la vaisselle d'à côté, les enfants qui crient de l'autre, enfin. Donc effectivement, c'est une situation qui n'est pas vraiment du télétravail, c'est, comme je dis, du pseudo-télétravail. Et c'est un peu contraignant pour le coup, c'est clair.
Ouais. Bon, c'est ce qu'on disait, hein, le partage vie privée vie publique, en fait, le retour au télétravail peut être vécu comme quelque chose de comme un espace de liberté, mais en réalité n'est pas dénué de beaucoup d'ambiguïté, y compris de la part de l'employeur. Alors, on va juste passer maintenant peut-être, et parce qu'il serait temps, aux oubliés du confinement. Tous ces précaires qui sont quand même extrêmement nombreux hein, depuis 15 ou 20 ans, les intérimaires. Alors, on a eu les nouvelles hein, de Mme Pénicaud qui admet prolonger l'indemnisation des chômeurs d'un mois. Moi, je pense que c'est le minimum qu'elle pouvait faire, parce que, vous savez, vu le taux de contrat court, le taux d'embauche en contrat court, je crois qu'il est il doit bien être de 75%, quelque chose comme ça. Les large partie des chômeurs n'ont pas des indemnisations d'une durée illimitée. Alors là, c'est même pas la peine d'aller chercher du travail. Pour ces gens-là, c'est une baisse de revenus. Alors, est-ce que vous avez une remarque hein, sur
tout j'ai un article. En fait, il y a Yves Verrier de Force ouvrière qui s'insurge contre la nouvelle réforme des allocations chômage censée rentrer en vigueur au 1er avril. Alors, Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a déclaré que du fait de la situation économique et de la propagation du coronavirus, il y avait déjà une nécessité notamment d'aider les entreprises. Mais il y a le fait qu'il y a cette modification du calcul de l'allocation au 1er avril qui a été actée par la loi. Donc, Mme Pénicaud a déclaré qu'elle le reportait au 1er septembre, sauf que Yves Verrier, notamment, et d'autres syndicats, notamment la CFDT, dit c'est bien en période de crise que le rôle d'amortisseur social de l'assurance chômage doit être réaffirmé, écrit le syndicat réformiste, qui pointe les impacts redoutables que produira la réforme, parce que le problème de cette crise du coronavirus, c'est que beaucoup d'intérimaires, de personnes à temps partiel, vont se retrouver au chômage tout court, ce qui va avoir des impacts sur les finances de l'UNEDIC. Mais le report, de toute façon, au 1er avril de la nouvelle réforme du chômage qui supprime de nombreux droits, si c'est enterré au 1er septembre, ça ne veut pas dire que tous ces intérimaires, toutes ces personnes à temps partiel qui nous écoutent peut-être, vont retrouver un pouvoir d'achat conséquent si la réforme est simplement reportée au 1er septembre, d'où la demande des syndicats de purement et sincèrement enterrer cette modification de l'indemnisation chômage.
Oui, parce que tout à fait, pour compléter, on imagine la réforme qui devrait avoir lieu au 1er avril, mais si elle avait déjà eu lieu, les effets là tout de suite dans la situation présente, pour des gens qui sont habituellement en intérimaire, en termes d'indemnisation, ça serait catastrophique. Il n'y aurait plus rien à se mettre.
Oui, mais il y a une petite hypocrisie quand même de la part du gouvernement qui dit qu'il n'y aura aucun licenciement dans la période. Pour les CDI, certes, mais il n'a pas parlé des CDD, des contrats courts, qu'effectivement, comme tu viens de faire remarquer, Christophe, à l'instant, des gens qui sont en CDD et qui finissent leur CDD par exemple dans la semaine, là, ils ne seront pas réembauchés pour le coup, parce qu'effectivement, ils seront obligés de rester chez eux et ils seront peut-être réembauchés après la période, c'est-à-dire dans 3-4 mois. Effectivement, il va y avoir un nombre croissant de gens qui vont se retrouver au chômage, avec des peut-être même pas indemnisés ou avec une indemnisation qui sera assez restreinte, donc ou petite. Donc, c'est effectivement un problème qui se pose et qui n'a pas été, en tout cas, discuté apparemment au gouvernement. Voilà. Donc,
j'ai deux remarques là-dessus.
Oui, je t'en prie.
La première, c'est que la proposition de gel et de suspension des licenciements a été rejetée. Le prétexte étant qu'on a besoin de licencier pour redémarrer. C'est le truc néolibéral habituel. Donc, voilà,
ça c'est trop courant, ça, oui.
Et ouais, bah, donc tu vois que non, mais c'est vraiment des dogmatiques, hein. Ils vont pas lâcher même dans l'urgence.
D'accord.
Deuxième point, alors là par contre, qui est peut-être un peu plus positif, je vais faire une prédiction. Je prévois, moi, qu'effectivement, ils remettront plus jamais la réforme du chômage sur les rails, elle est tuée. Et je prévois que la réforme de retraite, c'est pareil.
Ça, ce serait bien ça.
Ils ont plus l'énergie nécessaire, ils sont sur les gaz, là, ils roulent sur les gaz. Quand ils vont sortir de la crise, ils auront même plus d'énergie nécessaire pour passer ces deux réformes. Pour la reprendre la première, et déjà ils seront en train de se défendre contre toutes les accusations d'inaction. Ils seront en procès, au pénal, pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils auront autre chose à foutre que de repasser ces réformes. Je pense, je m'avance peut-être, mais je pense que ces réformes sont mortes. On a fait un bon temps pour les repousser jusqu'au début de la crise.
Alors voilà, donc voilà une opinion qui j'espère que ça va se concrétiser. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle dans tout ça, et je la donne tout de suite avant de passer justement aux indépendants, c'est que nous avons quand même une bonne nouvelle qui vient des États-Unis. C'est un truc extraordinaire, incroyable. Donald Trump parle enfin de revenu universel. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé, Bob? C'est incroyable.
Je ne sais pas vers qui il s'est tourné, mais alors il est possible que... Il y a deux composantes dans le Parti républicain. Hein. Il y a une composante majoritaire qui sont les charismatiques, pentecostistes, ultralibéraux, conservateurs, pro-gun, anti-avortement, etc. Bon. L'autre composante qui est moins connue, c'est les libertariens. Oui. C'est-à-dire des gens qui sont pour... Mais alors là, pour le juste, ils sont juste pour l'ouverture des marchés, mais ils sont aussi pour l'ouverture des frontières, pour la légalisation de la dope. Et l'interdiction, il est interdit d'interdire, c'est ça leur truc. Et leur cheval de bataille principal, économiquement, c'est justement le revenu universel. Alors je pense que les néoconservateurs ont tellement foiré au sein du Parti républicain, là, ils savent qu'eux, c'est pareil, ils voient le mur qui s'approche, quoi, qu'ils sont en train de piocher dans leur réservoir alternatif l'idée chez les libertariens. C'est à peu près, c'est probablement comme ça que je l'interprète, moi, mais bon, après, c'est trop tôt pour le dire.
D'accord. Donc, c'était la deuxième fois qu'on citait Donald Trump dans cette émission.
Ouais, je sais.
Donc, tout est extraordinaire, c'est incroyable, on vit une époque formidable. Alors, et ben justement, donc, on fait, ça permet de faire le lien justement avec les indépendants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pour le coup rien du tout. Alors, donc il y a plusieurs situations, hein, parce que, donc Gilles, tu peux nous parler de la situation des gens qui sont dans le paramédical, et donc des syndicats, hein, qui sont capables de prendre en partie en charge une continuité de revenus. Par contre, il y a les uberisés. Et là, pour le coup, alors qu'il s'agit du travail déguisé, on voit tous les dégâts de l'ubérisation de secteur de l'économie, puisque ces gens-là n'ont plus rien en cas de crise grave. On commence peut-être par les secteurs du paramédical, Gilles.
Oui, bien sûr. Donc, effectivement, les gens qui travaillent dans le paramédical, donc qui sont des libéraux, hein, puisqu'ils ont effectivement un cabinet, hein, donc cabinet médical, genre orthophoniste, motricien, diététicien, psychomotricien, masseur, kinésithérapeute, ils sont en contact des gens dans leur cabinet, donc ils ont effectivement, pour les trois quarts, même plus de 80% d'entre eux ont fermé leurs portes. Pour les 20% qui restent, ils consultent par vidéoconférence ils donnent des conseils, par exemple les masseurs donnent des conseils de posture par téléphone ou par voilà. Et sinon, pour les 80% qui sont fermés leurs portes, ils ont un souci de charges, puisqu'ils payent leur loyer, hein, et puis ils payent éventuellement tout ce qui touche à l'impôt, tout ce qui touche effectivement à la retraite, à la sécurité sociale, puisqu'ils payent aussi pour la sécurité sociale.
Oui, bien sûr. Ils continuent à payer, en fait. Hein. Ils continuent à payer, en quelque sorte.
Ils continuent à payer, ce qui correspond à 60% à peu près de ce qu'ils touchent. Hein. Il y a 60%
de ce qu'ils touchent. C'est important qu'il y ait un report, hein, qu'il y ait une autorisation de reporter certains...
Voilà, c'est ça qui est... Voilà, donc ils ont gagné ça. Ils ont gagné le report de tous ces frais qui sont extrêmement expensive, comme on dit en anglais, qui sont très importants. Par contre, ils n'ont pas de ressources. Et donc, le syndicat de tous ces paramédicaux, hein, se sont réunis en vidéoconférence. Ils ont posé des questions au ministère, à la ministre de la Santé, ou au ministre, de la Santé, pour obtenir éventuellement une sorte d'indemnisation de la perte de
revenus.
Et il a été question, donc pour l'instant c'est dans les tuyaux, mais on ne sait pas encore si ça va dans la pratique, comment ça va se faire. Il est question pour toutes les personnes qui sont en libéraux dans le paramédical et qui ont perdu 70% de leurs revenus, d'obtenir 1 500 € de l'État par mois pendant la période. Ils sont contents quand même, les gens, le syndicat est satisfait quand même d'avoir au moins obtenu une réponse, ce qui n'est pas toujours le cas. Et 1 500 €, c'est pas mal, mais est-ce que c'est peut-être pas assez, voilà. Donc, les questions restent posées. Le syndicat continue à faire le forcing auprès du ministère de la Santé pour obtenir un peu plus et voir un petit peu comment seraient les modalités de mise en place. Et pour l'instant, on en est là. Je sais pas d'autres nouvelles par rapport à ça, mais en tout cas, ils ont en tout cas gagné le fait de reporter. Attention, hein, ce n'est pas une annulation. C'est-à-dire, par exemple, tous les loyers qu'ils doivent payer, c'est reporté, mais ça va être, au lieu d'en payer un, ils vont être obligés d'en payer deux ou trois à la fin de l'année, hein, pour le coup, pour récupérer, rattraper le truc. Pareil pour la retraite, pareil pour tous les frais, les impôts, etc. Il n'y a pas d'annulation, c'est qu'un report. Mais ça permet effectivement de ne pas être en situation de pauvreté, pour le coup, parce que si en plus on n'a pas d'argent et qu'on doit payer tout ça, ben effectivement on se retrouve très précaire, très précarisé. Hein. Donc voilà. Donc on attend la suite. Pour l'instant, ils en sont à négocier. Ils ont déjà gagné un petit peu. Ils espèrent gagner plus. On attend. Voilà.
Oui, par rapport à ça, ben, il y a une situation qui est aussi dramatique, c'est tout simplement les avoirs de repas à domicile, hein, qui sont très très en colère. Donc là, je cite un article du site 01.net, hein, puisque les personnes qui travaillent pour Deliveroo, Uber Eats, Frischkin, n'ont pas cessé la livraison de repas à domicile. Et il y a... je cite quelques propos, hein. Jérôme Plimaud, fondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris, qui interroge pourquoi tous les restaurants sont fermés mais les livreurs doivent bosser. Une très bonne question, hein. Pour eux, pour tous ces livreurs qui sont précaires, il y a deux colères, celle de ceux qui sont chez eux et celle de ceux qui sont dehors. La première trouve sa source parce que les conditions d'indemnisation des sous-auto-entrepreneurs comme ils appellent, est misérable. C'est-à-dire qu'on va leur donner 1 500 € mensuels, hein, c'est ce qui est promis. Puis, il y a une baisse du chiffre d'affaires de moins de 70% par rapport à mars 2019. Sauf que toute hypocrisie, c'est que très souvent, au moins 70% du chiffre d'affaires sur le mois. Sauf que ce confinement et cette règle a été édité le 16 mars. Donc, les gens ont fait au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Donc, il y aura très peu d'indemnisés, donc ça va être une perte du pouvoir d'achat grave pour toutes ces personnes. Hein. Ça va être vraiment difficile à toucher. Alors, non seulement c'est un prolétariat, hein, de fait, mais c'est eux sur qui on tape. Et ils vont avoir. En plus, c'est une espèce, je dirais, de serpent qui se mord la queue, parce que même s'il y a une report des charges, par exemple, pour les galettes pour Dursaf, hein, d'un mois, deux mois étalés, ils vont devoir se remettre en selle d'autant plus rapidement pour pouvoir payer ce report. Hein. Et sachant que il y a aussi, ils sont confrontés aussi au fait qu'il n'y a pas d'aménagement dans les zones de récupération des repas qui est désaffecté. Donc, quand ils arrivent, ils préviennent les clients de leur arrivée en frappant, en sonnant. Ils partent immédiatement, ils se mettent à distance de 2 mètres de la porte. L'objectif, c'est pas de croiser les gens. Et en plus, eux, comme ils sillonnent les grandes villes et les agglomérations, voire même parfois les petites villes, les faubourgs, ils n'ont pas, d'abord, ils ont très peu d'alcool hydraulique et de masques et de gants. Ils n'ont pas de point d'accès d'eau pour pouvoir se désinfecter en se lavant les mains, ne serait-ce que ça. Donc, Deliveroo a déclaré, une des plateformes a déclaré qu'ils donneraient un point essentiel à la fin de couvrir les livreurs atteints du Covid-19. Sous condition d'un arrêt de travail, on attend de quoi on veut parler par rapport à ça. Il y aurait une plateforme au niveau de la sécurité sociale, sans plus de précision, si un livreur est en contact, on voit directement avec lui. On ne sait pas sur quelle modalité la puissance publique, notamment la sécurité sociale, va intervenir. Et puis alors, à la question de pourquoi tout simplement pas arrêter, Deliveroo réplique qu'il y a une pression forte des restaurateurs qui va écouler leur stock avec leur fermeture surprise samedi 14 mars à minuit. Donc, on demande aux chauffeurs et livreurs de Deliveroo de continuer leur travail. Concrètement, hein, ils ne peuvent même pas respecter les règles d'hygiène, c'est totalement révoltant, sachant que pour Jérôme Plimaud, donc du PLR 75, ils sont, du fait de leur situation, hein, priés de rester chez eux car ils sont réellement des vecteurs du Covid-19. Or, les livreurs n'ont pas d'autre choix d'être dehors, comme les SDF. On leur recommande désormais de faire descendre les clients pour prendre le moins de risques possible. Mais la réalité, selon Jérôme Plimaud et bien d'autres représentants indépendants du monde du chauffeur livreur, la réalité c'est quoi? c'est que Deliveroo, Uber Eats et autres frichetis ne veulent faire qu'une chose dans ces temps de crise, du pognon.
Eh ben, merci Christophe. Oui, merci Christophe. Ben justement, en fait, on peut rester sur cette histoire de gens qui doivent continuer à travailler avec cette intervention fameuse de Muriel Pénicaud, qui a taclé la fédération du bâtiment en leur disant simplement qu'il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent de travailler. Parce qu'évidemment, on peut se douter que ça coûte cher en chômage à temps partiel à l'État. Si tous les gens qui travaillent dans le bâtiment s'arrêtaient de travailler, ça représente à peu près 2 millions de personnes. Bob, tu avais quelque chose à dire sur la question?
Oui, bah voilà, Pénicaud est intervenu sur LCI hein, pour effectivement tacler la CAPEB, donc, qui est une des grandes fédérations du bâtiment, hein. Et donc elle se disait scandalisée que la CAPEB, donc je résume un peu la situation, la CAPEB a dit à tous ses adhérents d'Auvergne-Rhône-Alpes d'arrêter les chantiers, de reporter leurs chantiers à 15 jours, à un mois, et donc de ne plus envoyer leurs salariés sur les chantiers. Et en disant, bon bah voilà, on n'a pas le choix, et donc en essayant de compter sur la solidarité nationale, c'est-à-dire le chômage partiel, qui est une solution qu'ils sont obligés de demander, là, pour le coup. Et au lieu de quoi, Pénicaud dit qu'elle est scandalisée par cette décision, et elle dit, ça, c'est du défaitisme. Je cite, hein. Et oui, ça, c'est du défaitisme. Ça veut dire qu'en fait, la guerre que Pénicaud veut mener, c'est une guerre économique seulement, c'est pas une guerre sanitaire, parce que c'est pas du défaitisme ce qu'ils ont fait, c'est le bon sens incarné, pour le coup. Là, on n'est pas non plus favorable hyper au patron dans cette émission, mais là, il faut reconnaître qu'ils ont ils ont pris leurs responsabilités. Non, pour Pénicaud, ça, c'est du défaitisme. C'est pas ce qu'elle veut voir. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? La responsabilité, en fait, ce qu'elle dit, tout simplement, c'est que la responsabilité, c'est d'exposer les salariés. Voilà. Être responsable, c'est continuer à faire trimer des salariés sans protection. Parce qu'elle fait tout un blabla sur comment les entreprises doivent voir la meilleure manière de protéger, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? On va voir, ça donne des gens qui sont envoyés au casse-pipe. Au casse-pipe, pour faire tourner l'économie. Et c'est pour ça que tout ce que je dis, effectivement, sur le confinement, c'est du pipeau. Il fallait confiner tout, et ensuite, sélectionner les secteurs prioritaires qu'on allait faire redémarrer avec les conditions de sécurité. Là, ce qu'ils ont fait, c'est l'inverse. C'est tout le monde va bosser jusqu'à ce que, ils fassent grève, en fait. C'est ça. Et tout le monde va bosser jusqu'à ce qu'ils crèvent.
Alors, justement, moi, je trouve qu'il y a une différence de traitement, si vous voulez, entre les personnels des administrations, parce que les administrations non utiles, comme on l'a vu, tout a été fermé, hein, même en administration centrale, une grande partie des fonctionnaires sont partis. Et certains secteurs, alors, typiquement Amazon. Alors, Amazon, c'est quand même incroyable, c'est un espèce de grand supermarché qui n'est pas alimentaire, donc caractère indispensable pour l'économie, laisse à désirer, mais c'est un géant, économique, hein, qui a évidemment qui paye ses taxes à la fin de l'année. Or, pour eux, il a fallu quand même quelques jours de confinement pour que les salariés commencent à dénoncer les conditions de travail et le risque de contamination, puisque, là, pour le coup, on a l'impression qu'il y a une prime à la taille de l'entreprise, me semble-t-il.
Moi, j'ai une grille de lecture un peu plus simple.
Mm-hmm.
Tous les cadres, chez eux, tous les prolétaires, au charbon.
Tous les employés de bureau, tout à fait. Tous les employés de bureau.
Voilà.
D'accord. OK, donc... Je t'en prie, tous en même temps.
Oui, juste, j'ai un conducteur de travaux, donc j'ai une lettre que j'ai récupérée sur Twitter d'un conducteur de travaux au gouvernement, il y a Muriel Pénicaud. Ah. Conducteur de travaux, c'est justement un cadre de chantier. Mmh. C'est très intéressant parce qu'il explique pourquoi il faut interdire les chantiers et les reporter. Je commence ça. Cher gouvernement, Muriel Pénicaud, je suis conducteur de travaux dans une boîte de seconde œuvre du BTP. Je souhaite vous interpeller sur le pouvoir de contamination que nous avons. Mon entreprise emploie une 60aine de personnes, divisées en 30 équipes de 2. Nous avons un véhicule par équipe. Vous dites qu'on n'a qu'à fournir un véhicule à chacun. Certains n'ont pas ou plus le permis. Comment fait-on? Vous dites qu'on doit leur fournir masque et gel. Où en trouvons-nous? Pareil pour les différents outils, cloueurs, visseuses, qui passent de main en main. Ils utilisent également tous le même WC, le même bungalow. Notre entreprise intervient à partir du moment où le chantier est fermé. C'est du second œuvre, hein. C'est-à-dire dans un lieu confiné, en coactivité avec d'autres corps d'État. Ajouter 2 plaquistes à 2 plombiers et 2 électriciens,
nous obtenons 6 personnes dans un même lieu confiné. Vous ne connaissez pas le monde du bâtiment, mais ce n'est pas le point fort des gars de respecter les règles de sécurité. Alors là, il rajoute entre parenthèses, je vous aime mes gars. Enfin, c'est pour ces salariés, je pense. Concernant mon métier, j'ai une 20aine de réunions par semaine dans 4 départements différents. J'y rencontre les élus, les architectes, les autres conducteurs, un parcours d'État, des coordinateurs de sécurité et surtout les ouvriers qui interviennent. Des dizaines, voire des centaines de personnes chaque jour. Si je me retrouve contaminé, je risque fort de contaminer d'autres personnes en me rendant sur un autre chantier. Et il est impossible pour nous de ne pas passer sur les chantiers afin de s'assurer que tout se fait dans les règles de l'art. Vous voulez que les bâtiments s'effondrent dans 2 ans, qu'ils brûlent en quelques minutes? Non, c'est pas comme ça qu'on procède. Le BTP, c'est pas juste 4 personnes sur un chantier qui font du bruit pour énerver les voisins. Un chantier, c'est vivant. Si le monde du BTP emploie 2 millions de personnes, c'est pas pour rien. Notre pouvoir de contamination est immense. À nous seuls, on peut contaminer le pays entier. Vous avez le choix entre une crise économique ou financière. Avec un confinement partiel, vous aurez les deux. Alors, je pense qu'il voulait dire économique ou sanitaire, en fait. C'est pas assez logique. Nous ne faisons pas ça par fainéantise, comme vous le dites. Notre métier nous tient à cœur. Et je ne vous permets pas de m'insulter, moi et 2 millions de personnes. Cessez votre égocentrisme et écoutez ceux qui savent. C'est votre devoir de protéger les Français qui vous ont élus. Vive la République, vive la France.
Ah ouais. Bravo, et prix d'amour pour le bâtiment.
On va chanter l'hymne national, non, là, mais... pour le coup. Hein. Non, mais... le type dit les choses comme elles sont.
Ah oui, oui.
Et par ailleurs, je pense que cette crise, c'est un révélateur. C'est une eau forte. Elle dissout tous les faux semblants et elle révèle la véritable nature des gens. Entre le propriétaire d'appartement qui fait un report de loyer pour ses locataires et celui qui vient leur réclamer le loyer, on fera la différence. Entre des ministres incompétents qui envoient les gens au casse-pipe et des gens qui ont vraiment le souci de la santé, on fera la différence.
Bien sûr.
Entre les patrons qui envoient leurs salariés bosser et ceux qui prennent des initiatives pour les protéger, on saura faire la différence.
Absolument.
Voilà. Donc, c'est terminé la mascarade. Parce que
oui,
les masques
non, mais
fondu.
Okay.
Non mais il y a un effet qui pour moi est quelque part peut-être bénéfique, hein. C'est quand on voit qu'effectivement les bourses dégringolent un petit peu partout, peut-être qu'avec l'histoire du pétrole qui est à bas prix, etc., peut-être qu'on va se rendre compte que le modèle que nous avons aujourd'hui est arrivé à la fin, quoi,
on va en parler tout à l'heure, Gilles. Juste, je voudrais quand même finir faire un tour sur les invisibles, entre guillemets. Enfin, non, oui. Tout le monde n'est pas invisible, les travailleurs ne sont pas des invisibles, mais il y en a qui sont plus invisibles que d'autres. Il s'agit des SDF et de leur confinement extrêmement problématique. C'est quand même les grands oubliés de cette crise, puisqu'effectivement, les confinés essaient de les exposer à... Les confinés dans les gymnases, hein, comme essaye de le faire la mairie de Paris, c'est les exposer effectivement à la contamination, mais pas les confinés, c'est les laisser à la rue. Et en outre, toutes les associations qui s'occupent habituellement d'elles, notamment les banques alimentaires, sont elles-mêmes en pénurie de personnel, parce que d'abord elles sont en manque de protection, ensuite on n'applique pas les gardes d'enfants prioritaires, hein, pour le personnel de santé à eux. Donc pour le coup, il y a une vraie crise sanitaire qui s'avance. Gilles, est-ce que tu as des éléments sur la question?
Oui, j'ai quelques éléments. Il faut savoir que les soins domicile fixe sont quand même les grands oubliés de la nation, hein, pour le coup, parce que ce sont des gens qui, depuis toujours, vivent dans la rue, donc connaissent une précarité sanitaire également et médicale, enfin bref. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se soigner, de se laver, c'est encore plus compliqué. Et là, avec le coronavirus, effectivement, il y a la situation peut être encore énormément plus dramatique, puisqu'ils peuvent être aussi vecteurs de transmission à grande échelle aussi, hein, comme les gens du bâtiment, hein, pour le coup.
Gilles, est-ce que tu as des éléments sur la question?
Alors oui, j'ai quelques informations, effectivement. Donc, l'Agence l'absence d'attention que l'État a par rapport aux SDF est d'autant plus étonnante que les disponibilités en matière d'hébergement sont nombreuses dans notre pays, puisqu'il y a tous les logements vides hein, qui ne sont pas occupés, pour le coup, et également les hôtels qui sont complètement vides actuellement. Donc, des accueils de jour ont été fermés à plusieurs endroits et certaines maraudes ont été suspendues, ce qui est normal puisque nous sommes dans une confinée, voilà, une configuration un petit peu particulière cette année avec cette épidémie. Les centres d'hébergement tentent de protéger les personnes accueillies de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, ils essayent de faire au mieux qu'ils peuvent, parce qu'ils ont aussi peu de moyens. Pour le coup. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai appelé ce matin les services sociaux du 18e arrondissement de Paris pour avoir des informations, parce que je ne me suis pas du tout fait passer pour quelqu'un de la radio. J'ai simplement posé la question de savoir s'ils télétravaillaient, s'ils avaient beaucoup de monde, etc. Et effectivement, le service des travailleurs sociaux qui se trouvait à Max Dormois dans le 18e, fermé. Et donc, ils télétravaillent tous, hein, pour le coup, pour en tout cas une partie d'entre eux. Et ils ont tout regroupé rue Ordinaire dans le 18e pour accueillir les gens, pour répondre au téléphone. Et ils m'ont dit qu'ils étaient mais complètement débordés. Donc, apparemment, il n'y a pas eu de prise de conscience préalablement pour mettre les choses petit à petit, pour que les choses arrivent petit à petit, jour par jour, etc. Donc, ils sont débordés, ils sont complètement débordés. Ils ne peuvent pas faire face à la situation. C'est une situation qui est extrêmement dramatique hein, pour le coup, parce que les gens qui font appel aux services sociaux sont les plus précaires d'entre nous. Hein, Donc ça, c'était déjà une chose. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 157 000 précaires dans notre pays qui sont hébergés dans des centres d'hébergement, dont 14 000 au titre du plan d'hiver. Hein. Et comme tu l'as précédemment dit, effectivement, les places vont. On devait fermer un certain nombre de places, de lits en tout cas. Et ça reste en ouvert jusqu'au 31 mai, donc il y a un mois supplémentaire pour ces personnes-là. Voilà. Mais le nombre de places reste insuffisant, puisqu'on sait que les sans-abri sont un public qui est vulnérable, hein, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez qu'effectivement, ils ont peu de moyens de se soigner, ils sont effectivement fragiles d'un point de vue de la santé, hein, puisqu'ils ont déjà attrapé un certain nombre de maladies, je ne sais pas. De virus, voilà. Et en plus, c'est un public SDF, c'est un public qui vieillit, hein, apparemment, plus vite que les autres, pour le coup.
Oui, hein, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Et voilà. Mal, donc, en plus, ils n'ont pas, voilà.
Hein. Qui prennent plusieurs pathologies aussi, donc ils sont plus exposés en cas de contamination. Alors, d'autant que ce serait l'occasion. Oui, d'autant que ce serait l'occasion, finalement, de réquisitionner, en quelque sorte.
Bah, oui, mais c'est cher, ça. Ils sont en cours de le faire. Juste encore un truc sur l'état général de la situation, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas le réflexe d'appeler le 15, parce que le 15, c'est un peu comme fréquenter la police ou aller voir l'administration, quoi. Ça fait un peu peur. Et puis, c'est pas dans leur état d'esprit. Donc, le ministère du Logement tente de trouver des solutions d'urgence. Donc, évidemment, leur objectif est de mettre à l'abri l'ensemble des personnes concernées. Mais il n'y a pas de mise à l'abri de force. Donc, il n'y a pas de tentative de mettre les gens ni en prison, ni des amendes, a priori, si jamais ils refusent d'aller en centre d'hébergement.
Je crois qu'à Lyon, il y a des gens qui ont des SDF.
Oui, j'en parlais juste après. Oui, justement, à Lyon, il y a eu des amendes sur les SDF. Enfin, des policiers ont mis des amendes aux SDF qui ne voulaient pas, effectivement, se confiner, enfin, trouver un endroit pour se retrouver seul, en fait, hein, pour le coup. Donc, ils n'avaient pas les moyens de prouver qu'ils étaient en train de se déplacer pour aller voir le médecin. Donc, alors, par exemple, à Paris, on a un nouveau gymnase qui a été ouvert le mardi dernier. Et la mairie de Paris a proposé à l'État de mettre 14 gymnases supplémentaires pour les SDF. Le problème d'un gymnase, c'est que ce n'est pas des pièces individuelles, c'est comme un réfectoire. Donc, on est obligé de mettre les lits à 2 mètres chacun des uns des autres. Hein. Et il y a quand même possibilité quand même d'avoir des problèmes de transmission. Ils ont réquisitionné aussi le centre Kellermann dans le 13e arrondissement de Paris, qui a 170 chambres isolées. Ils ont prêté 170 chambres isolées. Alors, je ne sais pas si c'est gratuit ou si c'est payant, si l'État doit payer une partie de la chambre. Ça, je le dis
pour
pas.
Les SDF, ça va être compliqué. Hein
oui, les SDF de payer. Mais l'État paye à la place des SDF, si tu veux.
D'accord.
Ils ne disent pas si c'est gratuit ou pas. Et le groupe Accor a proposé 200 chambres en Île-de-France et 600 en France, ailleurs en France.
Voilà. Alors, il faut savoir que, en général, les dortoirs sur les centres d'hébergement sont minoritaires, heureusement. La grande majorité des espaces proposés pour les personnes les plus précaires sont des chambres isolées. Donc, il y a eu un progrès depuis ces dernières années de faire des chambres individuelles, ce qui est quand même une bonne chose. Donc, les travailleurs sociaux, j'en parlais tout à l'heure, sont complètement débordés et il est très compliqué pour eux de faire, pour les travailleurs sociaux, il est très compliqué de faire respecter les gestes barrières parce que les personnes qui ne parlent pas français ou qui ont des problèmes de santé mentale ont du mal éventuellement à comprendre la situation réelle, en fait. Hein, Donc, la situation, a priori, reste grave, mais. Peut-être qu'il y a des propositions de fait d'ouvrir des centres en plus, et ça va peut-être permettre de juguler un petit peu le chiffre, mais bon, il reste quand même énormément de gens dans la rue, et ça, c'est problématique, quoi.
D'accord. Ok. Donc, sur les histoires à Lyon, c'est quoi c'est
Ah oui, alors à Lyon, excuse-moi, tu as raison. Donc, plusieurs SDF expliquent au SAMU social, donc à Lyon, hein, avoir reçu une amende pour ne pas avoir respecté les règles de confinement. Donc, ce qui fait rire jaune tous les professionnels pas de la santé, mais des services sociaux, hein, les éducateurs, etc. Et ceux qui s'occupent.
Légèrement absurde, oui, tout à fait.
Oui, c'est absurde. Hein. Donc, ce soir, Gélarin, je dénonce un travailleur social au 115 sur Facebook. On lui dit de rester confiné, mais quand on n'a pas de chez soi, que faire? Il y a des limites à l'indécence, dépend pour sa part Maud Bigot, responsable sanitaire sociale. Depuis le début du confinement, 4 ou 5 cas de verbalisation de sans-abri ont été recensés, indiquent nos confrères du Progrès. C'est un journal qui est édité là-bas. Hein. Apparemment, le préfet Pascal Mello va faire en sorte de faire ouvrir une enquête interne au niveau de la préfecture et de faire évidemment annuler toutes les contraventions. Ça, c'est ça le but. Mais le fait déjà de les avoir donnés, c'est ridicule, quoi. Non, voilà.
C'est juste une façon de chasser un peu les gens, chasser cette misère qu'ils ont pu voir dans les centres-villes.
Exactement.
Ce pseudo-risque sanitaire, enfin bon, bref. Et, voilà. Alors, écoute, merci Gilles. Alors, on va passer à au dernier débat, en fait, de cette émission, qui est un débat, c'est que tout ça a un coût pour les finances publiques, comme le disait Christophe, et un coût pour les collectivités locales. Et donc, la question se pose, qui va payer la crise? D'autant que les cures d'austérité à répétition qu'on a connues ces dernières années ont contribué à saigner en quelque sorte l'hôpital, saigner les capacités d'accueil, notamment des urgences bien sûr, mais aussi du nombre de lits hein, d'hospitalisation qui ne fait que diminuer depuis les années 80. Et donc, comme d'ailleurs l'a rappelé justement notre président de la République, M. Macron, la santé, en fait, les services de santé, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils sont vital et extrêmement utile puisque éventuellement ils peuvent même servir, à faire qu'un pays continue à tourner normalement en cas de pandémie, ou à freiner en quelque sorte la rapidité du confinement en fait, bien qu'il est probable que de toute façon avec cette pandémie il était nécessaire de confiner les personnes. Alors justement, la BCE a annoncé un rachat des titres de dette sur les banques et sur les obligations d'État, pour empêcher la spéculation.
Je vais en parler. C'est un article de 20 minutes qui rappelle les différentes mesures, mais on va ouvrir un petit débat par rapport à ça. Donc, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a annoncé tout d'abord un plan de soutien économique immédiat qui se monte à hauteur de 45 milliards d'euros. Hein. C'est une mobilisation totale au service des salariés et des entrepreneurs. Il y aurait des mesures pour compenser le chômage partiel des salariés qui coûteraient, première estimation, 8,5 milliards d'euros. Sauf que, on a évoqué là tout le chômage partiel des salariés du BTP. À mon avis, ça va coûter bien plus. Hein. Alors concrètement, l'État remboursera aux entreprises 100% des montants versés aux salariés en chômage technique. Jusqu'à présent, ils se remboursaient qu'à hauteur du SMIC horaire. D'après le ministère du Travail, ça concerne déjà plus de 2 millions de personnes. Hein. Alors, Monsieur Le Maire se vante en disant que c'est une stratégie de maintien des compétences qui rompt avec les décennies précédentes, où lorsqu'il y avait une crise économique, on se séparait des salariés, on faisait des licenciements et du coup, on redémarrait plus difficilement l'économie. Alors ça, c'est le premier élément. Hein. Et le deuxième élément, c'est qu'il y aurait aussi des mesures pour les indépendants. Donc, on l'a déjà évoqué dans l'émission, le report des charges sociales et fiscales pour les entreprises. C'est une, en fait, c'est une mesure qui se chiffre quand même à près de 32 milliards d'euros pour le mois de mars. Enfin, il y aura un dispositif d'urgence et un fonds de solidarité doté d'un milliard d'euros par mois. Il servira à indemniser les commerces fermés sur ordre du gouvernement, bars, restaurants, discothèques, mais aussi les très petites entreprises. Alors, en ce qui concerne aussi les artisans et puis les indépendants qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 70%, ce mois-ci comparé à mars 2019, avec un chiffre d'affaires annuel de moins d'un million d'euros, ils auront droit à une compensation, une indemnisation de 1 500 euros par mois, versée par la Direction générale des finances publiques. On peut se demander légitimement, en fonction de la taille des magasins, si ça suffira à compenser les pertes. À mon avis, non. Également, le gouvernement, parce que ça, c'est une première phase, hein, serait amené à dépenser encore plus d'argent. Tous les moyens à disposition seront utilisés. Il y aurait notamment, Bruno Le Maire a rappelé, après l'annonce de ses premières mesures, la prise de participation et même de nationalisation aux France, notamment à certains groupes comme Air France ou KLM, hein, puisque ce sont des, dans le domaine aérien, ils vivent un supplice, hein, fondre quelques jours. L'État va aussi garantir 300 milliards d'euros des prêts bancaires contractés pour les entreprises auprès des banques. Donc ça permettrait de redémarrer, paraît-il, l'économie lorsque les entreprises auront besoin d'entreprises, de trésorerie, devant emprunter. Donc, lui, Bruno Le Maire termine son propos en disant ben, il s'attend à une récession du PIB, hein, puis à reculer de 1% après, avec plus 1,3% en 2019, hein, puisque déjà la crise financière de 2009 avait conduit à un recul du PIB de 2,2%. Sauf que là, alors ça, on dit c'est formidable, c'est des mesures concrètes qui sont prises et tout, sauf que le gouvernement fait légèrement chou blanc. Christine Lagarde vient de publier une tribune en tant que présidente de la BCE et là elle dit bah non là vous êtes complètement à l'ouest, ce n'est pas 2,2% du produit intérieur brut qui va être en moins, c'est minimum 7 à 8% du fait que la crise est générale et on va avoir affaire à une récession. Donc la BCE on a profité pour racheter des titres hein, aux porteurs, les titres de la dette des pays européens. C'est-à-dire que du fait de la baisse de la bourse, la prise de participation dans le rachat de la dette est beaucoup moins importante. Donc le levier, sauf qu'on ne sait pas quels pays sont concernés et qui sera sacrifié de fait. Voilà. Oui. Hein, un rachat à hauteur de 750 milliards d'euros, c'est pas rien pour rien jeter dans l'économie réelle. Qui est concerné, qui en fera les frais, ça on ne sait pas. C'est tout le débat géopolitique, j'ai envie de dire, qui va avoir lieu. Et là, il y aura des pays peut-être sacrifiés, comme l'Italie, par exemple.
Le problème, ce n'est pas le rachat des dettes. Hein, c'est que les obligations qui sont récupérées par la BCE continuent en fait, à être comptées par la Commission européenne comme des dettes, en fait. Et là, il y a un vrai souci, parce qu'effectivement, les taux d'intérêt tout d'un coup diminuent, on peut continuer à acheter. Mais enfin, si l'année prochaine, on se réveille avec par exemple, pour prendre l'exemple de la France, avec un PIB qui est largement au-dessus de 100%, peut-être quelles seraient les prochaines politiques d'austérité qu'on a connues, hein. Quel sera le nouveau tour de vis en fait de ces gouvernements, sachant qu'on n'en a pas manqué. Et là, moi, je ne sais pas, vu les politiques néolibérales qu'on a eues ces dernières années, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. On a l'impression d'un modèle pour le coup qui est à bout de souffle. Voilà, et c'est une question. Personne ne peut dire de quoi se passer, mais on peut s'inquiéter de cette crise. Un avis
je pense que c'est une crise que nous traversons là qui peut être porteur d'espoir quelque part. Parce que, effectivement, tout ce qui vient d'être dit, c'est exact, mais les gens prennent conscience, même les gouvernants prennent conscience de leurs limites à pouvoir régler le problème, hein, pour le coup. Et ils se sont rendus compte en France, par exemple, qu'il manquait des lits, qu'ils n'avaient pas tout le matériel au moment voulu à la date précise en question. Donc, peut-être que cette prise de conscience peut permettre, dans le futur, éventuellement, je ne dis pas de gommer toutes les dettes des États, bien sûr que non, mais peut-être que de voir le monde d'une façon différente et de le rendre plus solidaire et plus moins égoïste, hein,
mais de voir les choses autrement et peut-être de faire des choix politiques qui sont un petit peu différents, c'est-à-dire que, comme le disait Bob tout à l'heure, éventuellement le truc sur la retraite et puis sur l'assurance chômage, ça va dégager parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir en discuter à nouveau, mais ça peut permettre aussi, à mon avis, mais en tout cas je l'espère, je suis un peu naïf hein, pour le coup, mais c'est peut-être de voir le monde différemment et de rendre les choses un peu plus, plus justes, et tu vois, plus égalitaires en tout cas entre les gens, et donc et de faire des lois, en tout cas, ou des lois économiques, hein, qui ne donnent pas tout aux plus riches et qui donnent un peu à tout le monde. Donc, c'est simplement de faire un petit virage, je ne dirais pas vers un socialisme tout craint, hein, mais en tout cas, peut-être un libéralisme moins accentué, en tout cas, je ne sais pas.
Pardon, Bob, je t'en prie.
Ouais, je voulais juste dire un truc là-dessus. Bon, je pense qu'il faut qu'on soit très clair. Je pense que par la suite... D'abord, il ne faut rien oublier de tout ce qui vient de se passer là, et de tout ce qui va encore se passer là. Ils vont devoir payer intégralement toutes leurs conneries. Il va falloir absolument qu'on les marque à la culotte dès la minute où cette crise commence à descendre. Là, ils vont par exemple, alors il y a une chose par exemple, juste, je viens d'apprendre là, qu'ils vont durcir, ils vont faire un arrêté spécifique à la Seine-Saint-Denis pour multiplier les arrestations en Seine-Saint-Denis. Vous pensez que c'est un rapport avec le confinement ? Ce genre de choses, il va falloir qu'on fasse ultra gaffe pour leur demander des comptes. Faut virer tout ce gouvernement, faut virer la majorité des préfets, faut nationaliser toutes les entreprises qui auront pris des décisions de profit et pas de sauvegarde de leurs salariés, d'accord ? Ce qui veut dire qu'a priori, la grande surprise pour moi, c'est que visiblement le bâtiment, ils ont pris la bonne décision, donc ils ne seront pas nationalisés, ok, très bien, mais Amazon, moi j'en ai rien à foutre, Jeff Bezos, il vient de signer un truc où il abandonne tous ses entrepôts Amazon en France, on va les reprendre. Voilà, je veux dire, à un moment donné, non, mais je veux dire, faut pas qu'on s'arrête en route maintenant, hein. Il faut leur faire avaler la coupe jusqu'à la lie, parce que c'est pas acceptable, là, ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on ferme nos gueules parce qu'on est tous confinés, évidemment, on est en train d'essayer d'avoir l'effort de solidarité nécessaire et tout, mais on n'oublie rien. Il ne faut rien oublier dans la période qui va venir. Rien du tout. Tout sera décompté et tout sera payé.
Merci, merci Bob. Alors, cette émission sur le spécial sur le confinement va bientôt se finir. Alors, je vais juste finir par un clin d'œil, hein, comique, presque comique, c'est que en France, avant la crise du coronavirus, donc tout allait bien puisque les inégalités avaient encore augmenté en 2019, pardon. Et c'est un chiffre très officiel en fait qui nous vient d'INSEE. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par une augmentation des inégalités? En fait, ça veut dire que le taux de pauvreté augmente, il a augmenté de 400 000 personnes en 2018, et il est lié à quoi? Pour les deux tiers, il est lié à la suppression de l'ISS. Grosso modo, les revenus financiers ont augmenté, et donc, mécaniquement, le taux de pauvreté relatif, hein, c'est-à-dire qu'il est
tout à fait
un niveau de revenus, hein, je dis bien de revenus, de niveau de vie, c'est-à-dire pas seulement le salaire, mais moins les allocations, plus les allocations sociales, moins les impôts. Le niveau de revenus médian augmente mécaniquement, il y a donc plus de pauvres. Donc on est aujourd'hui à 14,7%. Entre 2007 et 2018, donc on a 2 ans de retard dans les stats. Donc 2 tiers liés effectivement à la suppression de l'impôt sur le revenu et à la suppression de l'ISF et 1 tiers lié à la baisse des allocations logement, ce qui quand même représente un chiffre. Pourquoi vous supprimez quelques francs sur les loyers, tout de suite, il y a des familles qui sont dans le rouge. Voilà, et donc je voulais juste donner un petite idée hein, de ce que c'est aujourd'hui de seuil de pauvreté pour une personne seule. Alors évidemment, hein, c'est un chiffre dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des disparités de territoire, qu'on soit par exemple en Île-de-France ou dans le Cantal, par exemple. Mais pour une personne seule, ça revient à peu près à 1041 euros. Pour une famille monoparentale avec un enfant, c'est de 1353 euros de pauvreté. Par exemple, un couple avec 2 enfants, de moins de 14 ans, c'est 2186 euros. Vous voyez, et de plus de 14 ans, c'est 2603 euros.
Voilà donc.
Ah bah, disons, moi je suis juste au-dessus. Hein.
Et ben voilà, ben, c'est bien, tu n'es donc pas pauvre, tu es juste
dans non, je suis pas
la médiane. Ouais. C'est parfait. Voilà, et donc évidemment, hein, c'est, bon, ça ne, on ne parle pas là de pouvoir d'achat, mais bien d'un niveau de vie médian. Voilà, et donc bah, tout allait bien en France, voilà, jusqu'à la crise du coronavirus. Donc, et ben, on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Voilà, merci à vous donc d'avoir suivi cette émission, d'avoir écouté. Merci à ceux qui l'ont fait dans ces conditions très particulières.
Merci à toi.
Et on vous donne rendez-vous bientôt sur SPP. Alors peut-être que la semaine prochaine, on aura l'émission mode d'emploi secret de fabrication en conférence téléphonique. Hein, Bob, c'est possible.
On verra.
Et je pense que de toute façon, vous aurez d'autres émissions de réponse par pluriel en conférence téléphonique. Hein. Il faut savoir s'adapter, quelle que soit la situation. Merci à vous.
Merci à tous.
Et bonne continuation.